Bonjour et bienvenue dans le podcast « À la découverte de soi » de l'évêque Michel Ambourouet. Chaque semaine, vous y trouverez toutes les ressources essentielles pour favoriser le développement de votre relation avec le divin, avec vous-même et aussi avec les autres. Prenez une bonne inspiration et laissez-vous guider sur le chemin de votre transformation vers le leadership. Bonne écoute.
Ce après quoi je cours, c'est la connaissance de Dieu. Jésus dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé, ou celui que tu as envoyé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vie éternelle sans savoir, sans connaissance. Et que la vie éternelle ou le paradis n'est pas un lieu. C'est un état de conscience. Ça veut dire que si vous allez au ciel tel que vous visualisez le ciel et que Jésus n'y est pas, c'est l'enfer. Parce que ce n'est pas le ciel, ce n'est pas le lieu, la localisation géographique qui détermine que vous soyez au paradis. C'est la personne de Christ. Maintenant, ce Christ-là, il faut le connaître. Ce que j'ai contre la religion telle qu'elle est présentée, c'est que c'est l'apparence de la piété. Mais elle renie ce qui en fait la force. Et ce qui fait la force de la piété, au-delà de l'apparence, c'est l'essence, c'est le contenu. C'est la spiritualité. Beaucoup de gens viennent à l'église et ne sont pas spirituels. Ils sont religieux, ils sont croyants, mais ils n'ont pas de relation avec le divin. Quand Jésus vient, il y a déjà une religion, ça s'appelle le judaïsme. Jésus ne vient pas établir une nouvelle religion. Jésus vient pour ramener le cœur des pères vers les enfants, le cœur des enfants vers le Père. Jésus vient pour nous présenter Abba, Papa. Le Père. Avant Jésus, on connaissait Dieu. Jésus ne vient pas présenter Dieu comme une divinité. Il vient présenter Dieu comme un Père. Quand vous priez, dites, pas notre Dieu, notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire que si dans ta marche ecclésiastique, ta foi chrétienne, tu n'as pas de relation avec le Père, tu n'es pas spirituel, tu es religieux. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Et ce dont je veux vous parler ce matin n'est pas lié à une vie ecclésiastique ou au fait de bien vivre la vie dans l'église. Quand je parle de l'église, comprenez que je parle des rassemblements, donc des quatre murs. Mon objectif, c'est de vous emmener à être victorieux dans votre vie quotidienne parce que vous êtes spirituel. Il ne faut pas que ta vie, ou du moins que les quelques heures que tu passes à l'église soient le meilleur de ta vie. Tu dois vivre en dehors de l'église la continuité de la présence, de la grâce, de la faveur, de la gloire que tu expérimentes dans la maison. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, il faut que tu sois spirituel. J'aime pas comment ton voisin te parle, parle à un autre voisin, dis-lui, il faut que tu sois spirituel. Je vais le dire différemment, dis-lui, il faut que tu sois au contact des esprits. Pas juste des humains, il faut que tu aies une relation avec le monde invisible, le monde des esprits. C'est ça qui s'est passé avec le père de la foi, le patriarche, Abraham. Voyez-vous, cet homme, de par son éducation, était habitué à l'adoration de divers dieux. Son père lui a transmis un type d'adoration. Mais alors qu'il est âgé de 75 ans, le Dieu qu'on appelle notre Dieu, qui est devenu plus tard le Dieu d'Israël, mais qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, il devient son Dieu parce que ce Dieu-là vient à sa rencontre. Quand je dis Dieu, ça me dérange. J'ai le sentiment que c'est cet esprit vient à sa rencontre. Ça veut dire que la relation entre l'homme et les esprits est initiée par les esprits. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, un esprit doit te choisir. Je vais dire ce que je veux dire, mais je vais le dire différemment ce matin. Vous vivez la vie que vous avez, certains d'entre vous, parce que vous êtes la cible de tractations spirituelles. D'un côté, il y a Dieu et ses esprits qui te font la cour. De l'autre côté, il y a d'autres esprits qui, eux aussi, revendiquent un droit sur ta vie. Vous m'entendez ou pas? Tu es tiré comme de toutes parts, de chaque côté. Et l'esprit qui finalement gagne dans ta vie est celui qui va imposer sa volonté. Vous comprenez? Je vais le dire différemment. Tes études, ton travail, ta vie professionnelle, ton mariage sera la conséquence du type d'esprit qui domine sur toi ou qui est en partenariat, en alliance avec toi. Abraham a 75 ans et d'une lignée d'idolâtres. Mais les esprits de son père, les esprits de sa lignée ne lui ont pas donné d'enfant. Quand Dieu le rencontre, Dieu lui dit, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père pour un pays que je te montrerai. Vous m'entendez? C'est ça qui commence l'échange entre cet esprit et cet humain. Cet esprit lui dit, bouge de là. Déplace-toi. Pourquoi? Parce qu'il y a des environnements où même Dieu ne peut pas te donner ce qu'il veut te donner. Parce que dans cet environnement-là, quoi qu'étant le Dieu de tous les esprits, il reconnaît qu'un être humain a donné un droit légal à un esprit de se mouvoir dans ce lieu. Donc à ce moment, pour le déconnecter de l'oppression spirituelle des esprits avec lesquels ont marché ses parents, il lui dit « déménage ». Ce n'est pas dans mes notes. Ce qui était au premier culte savent. Sauf que je vois dans mon esprit des gens à qui Dieu dit, pour ce que je veux te donner et là où je veux t'emmener, tu ne peux pas rester sur le terrain familial. Tu dois déménager. Mais le problème, c'est que ce qui te bloque, c'est que ne comprenant pas la spiritualité, tu ne comprends pas que l'esprit qui te parle ne peut pas intervenir dans ta vie si tu ne lui fais pas confiance. Je vais dire ça plus facilement, si tu ne crois pas. Mettez Romains 12, verset 6. Ana kalite paladaha, miskapradiha. Là, on est après Christ, après la mort, la résurrection de Jésus. Jésus a donné naissance à l'Église par sa mort. Je vois des choses dans mon esprit. Jésus a donné naissance à l'Église par sa mort. Quand on a percé son côté, comme dans Genèse, l'Église est sortie. Par l'eau et par le sang, Jésus donne naissance à l'Église. Vous êtes là? Maintenant, l'Église qui est son corps mystique, mystérieux, spirituel, invisible, doit se rassembler en un endroit qu'on va appeler nous l'Église plus tard. Mais l'église, ce n'est pas l'endroit. L'église, ce sont les rassemblés. Vous m'entendez ou pas? L'église, ce n'est pas le lieu. L'église, ce sont les gens qui se rassemblent dans le lieu. D'accord. Maintenant, l'apôtre Paul, pour nous aider à comprendre comment l'église doit fonctionner, dans les versets précédents, dit de la même manière qu'un corps a plusieurs membres. L'église a plusieurs membres. Et il dit chaque membre dans l'église a sa fonction. Et chaque membre dans l'église, un peu comme ta main et ton pied, tu ne manges pas avec le pied. Tu ne marches pas sur les mains. Est-ce que vous êtes là? Pourquoi? Parce que quand bien même tu pourrais essayer, ce n'est pas ce pourquoi le membre a été fait. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que ça marche que c'est pour ça que ça a été créé. Dans la parenthèse, je dis, le succès ne veut pas dire que tu es sur le bon chemin. La réussite ne veut pas dire que tu es vraiment là où tu devrais être. Écoutez-moi bien, c'est possible de réussir dans le mauvais couloir. N'évalue pas ta destinée ou le fait que tu sois sur le bon chemin parce que les gens t'acclament. Il y a des gens, le meilleur moyen de vous perdre, c'est de vous acclamer. Oh Dieu. Pendant qu'on t'acclame, toi tu te dis, c'est sûr que j'ai bien parlé. C'est sûr que j'ai bien agi, c'est sûr que c'était là où je devais être. Mais c'est faux, parce que c'est possible que la personne qui t'acclame, d'ailleurs, c'est la fable qui le dit, tout flatteur. Ça veut dire que celui qui te flatte, en réalité, en a après ce que tu as dans la bouche. Vous m'entendez ou vous ne m'entendez pas? Méfie-toi des flatteurs, je ferme la parenthèse. L'apôtre Paul donc dit maintenant, puisque nous avons des dons différents, il parle du corps. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. La grâce nous a été accordée et cette grâce vient avec des dons. Ou cette grâce facilite le fait que tu aies des dons. Si tu as reçu la grâce, tu as des dons. Tu as un don, au minimum. Le don que tu as reçu, par exemple, que celui qui a le don de prophétie, l'exerce selon, lisez, c'est ça le titre de mon message, l'analogie de la foi. Ça veut dire que lorsque quelqu'un prophétise, parce qu'il a le don de prophétie, ainsi parle Dieu à mon esprit. Vous avez des enfants? Vous êtes en vert. Non, pas vous, la dame qui touche sa chenette. Levez-vous. Ok. Vous avez combien d'enfants? 5. Ok. Ils sont là. La raison pour laquelle je lui parle des enfants, c'est parce qu'au moment où je suis en train de dire ce que je dis, je vois son ventre. Okay. Quand je vois son ventre, je pose la question donc, à l'ange qui me parle et qui me montre le ventre, pourquoi tu me montres le ventre? Au moment où moi je pose la question, j'ai une réponse. Le chiffre 3, qui est le troisième? C'est une fille ou c'est un garçon? C'est ça que je demande.
C'est une fille.
Elle a quel âge?
Elle a 15 ans.
Elle est où?
Elle est pas.
D'accord. Sur elle, particulièrement, je vois un lien entre vous et elle. Ça veut dire que le diable veut essayer de ramener les combats que vous avez eus à cette jeune fille de 15 ans. Vous comprenez ce que je dis? Vous pouvez ne pas dire amen. Moi, je vais vous expliquer. Donc, l'un des objectifs du diable, c'est de faire que elle tourne en rond dans le domaine de ses études, mais plus tard parce que c'est comme un plafond qu'on veut mettre sur sa tête pour empêcher qu'elle n'arrive à un niveau d'accomplissement. Vous comprenez ce que je dis? Quand je parle d'elle, je parle de vous. En ce qui vous concerne, il y a comme un plafond au-dessus de votre tête qui fait, je t'ai entendu, que malgré le fait que vous soyez qui vous êtes et que vous ayez fait ce que vous avez fait comme étude, il y a des limites placées sur votre vie qui font que les choses que vous touchez semblent ne pas prospérer. Là, mais vous pouvez dire amen. Voilà. Donc, ce qui fait que malgré les études, le travail ou les opportunités, vous n'arrivez pas à vivre la totalité des choses que vous avez dans le cœur. Je parle du commerce. Pendant que je parle du commerce, je vous vois investir, mais ça ne prend pas. Ou ça ne marche pas comme ça devrait. Ce que je dis est vrai, vous comprenez?
Amen.
D'accord. L'esprit qui s'attaque à elle est un esprit attaché à la famille. Je vous parle. Je prends un exemple, mais je vous parle. C'est un esprit qui vient d'une lignée. Pour que l'oppression de l'esprit s'arrête, il faut qu'on la déplace. Et qu'on la connecte à une autre lignée spirituelle. On priera pour vous. Prenez place. C'était juste un exemple, mais je prierai pour vous. Il ne faut pas vous inquiéter. Pourquoi je prophétise comme ça? Écoutez-moi. L'apôtre Paul dit que celui qui prophétise, prophétise selon l'analogie de la foi. La première chose que ça veut dire, c'est que je ne peux pas prophétiser en dehors de ma foi. Ce que je dis, je dois y croire avant de le dire. La mesure de la foi qui est la mienne va déterminer le type de prophétie que je donne. Le don est parfait lorsqu'il vient de Dieu, mais son exercice est restreint à ma foi ou par ma foi. C'est comme si Dieu te donne 1 million, mais ta foi ne te permet qu'utiliser 10 000. Donc le problème n'est pas avec le don ni le donateur, le problème est avec l'analogie de ta foi, la mesure de ta foi. Si vous comprenez, dites amen.
Amen.
C'est vrai pour la prophétie, mais c'est vrai pour le chant, c'est vrai pour les dons que Dieu donne. La Bible dit, toute grâce excellente, tout don parfait vient d'en haut, du Père de lumière chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ça veut dire que quel que soit ce que Dieu te donne, c'est parfait dans le potentiel. Mais pour que ça devienne parfait dans l'exercice, ta foi doit grandir.
Amen.
Si vous comprenez, dites amen.
Amen.
Qu'est-ce qui fait que ta vie de prière soit ta vie de prière? C'est ta foi. Tu pries à la mesure de ta foi. Il te pousse et je pousse. Tu donnes à la mesure de ta foi. Tu sers à la mesure de ta foi. Tu te sacrifies à la mesure de ta foi. Tu prends des risques à la mesure de ta foi. Si tu dois prendre de plus gros risques, tu dois avoir une plus grande foi. Est-ce que vous êtes là? Donc, celui qui a le don de prophétie l'exerce à la mesure de sa foi, l'analogie de sa foi, la proportion de sa foi. C'est ça que ça veut dire en premier. Je reste là rapidement pour vous dire ceci. Si je finis pas jeudi, je parlerai peut-être. Ok. Si je demande à notre sœur de se lever, elle est dans la barque avec nous, je suis Jésus, et je lui dis viens. Attends. Le viens, c'est ma responsabilité. Le fait de faire le pas, c'est sa responsabilité. Je lui dis viens sur la base de ma foi. Elle doit marcher sur la base de la sienne. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux être dans cette atmosphère, je dis la même chose, mais vous n'écoutez pas la même chose. Vous écoutez à la fonction ou à la mesure de votre foi. Ok. Il pousse et je pousse. Maintenant, le problème que j'ai avec la foi, écoutez-moi, c'est majeur. La foi n'est pas basée sur la vérité. Ça veut dire que pour être la foi, la foi n'a pas besoin de vérité. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Mais avant Jésus, les gens avaient la foi. Quand Moïse est sur la montagne et que Moïse voit le modèle, ai-je soin de bâtir le tabernacle selon le modèle que tu vois? Ok. Le modèle que Moïse fait, il pense que c'est la vérité. Quand il le construit, plus tard, l'apôtre Paul nous dit que ce que Moïse a fait, c'était l'ombre des choses à venir. Vous ne m'entendez pas? Ça veut dire qu'il a fait ce qu'il a fait, mais en réalité, plus tard, on nous dit que ce que Moïse a fait, ce n'était pas la vérité. Je vais pousser. Ils sont dans le désert. Moïse est fâché. D'abord, Dieu est fâché. Moïse est fâché. Ils sont tous fâchés. Et puis, le peuple d'Israël se plaint. Dieu fait descendre la manne. Dites la manne. Le pain tombe du ciel. Quand le pain tombe du ciel, plus tard, on va même garder la manne dans le tabernacle. On va garder la manne en commémoration du fait qu'à un moment dans l'histoire du peuple, Dieu a donné aux enfants d'Israël le pain qui venait du ciel. Vous êtes là ou pas? Jésus arrive et Jésus un jour, et c'est ça qui va énerver les gens de son époque. À un moment, Jésus dit, mon Père ne vous a jamais donné le pain du ciel. Il dit, ce que vous avez mangé, ce n'était pas le pain du ciel. Ça ne venait pas de mon Père. Mon problème, c'est que toute l'histoire juive dit que c'est le pain du ciel. Écoutez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu expérimentes quelque chose que c'est la vérité. Et c'est là où j'ai un problème avec l'Église. C'est que la plupart d'entre vous, vous considérez que dès que vous avez une expérience spirituelle ou une conviction, c'est la vérité. La vérité de ton expérience n'est pas forcément la vérité de l'Évangile. La vérité de ton expérience n'est pas forcément la vérité de Dieu. Je vais quelque part, écoutez-moi. C'est pour ça que je refuse d'écouter les ragots. Parce que si vous êtes sincère, lorsque quelqu'un vous parle de quelqu'un d'autre, même sans preuve, le fait d'avoir entendu modifie votre regard, modifie votre perception sur la personne. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Ça veut dire que la foi ne vient pas de la vérité. La foi vient de ce que tu entends. La foi vient de l'écoute. Et donc, quand on veut t'emmener à croire quelque chose, on doit te le répéter sans cesse. Vous avez grandi en famille et on t'a dit depuis que tu es enfant, tu es bête. Tu es bête. Pourquoi tu es bête comme ça? Tu es bête, tu es bête, tu es bête, tu es bête. Tu n'étais pas bête. Tu es devenu bête. Sur la base de ta foi.
C'était À la découverte de soi, le podcast de l'évêque Michel Ambourouet. N'hésitez pas à utiliser chacune des ressources qui vous a été utile dans l'épisode que vous venez d'écouter. Et surtout, ne le gardez pas pour vous, partagez-le. Et rendez-vous sur michelambourouet.com pour encore plus de prédications et d'enseignements pleins de sagesse. À la découverte de soi vous est proposé par MA Organisation.